Le jeune Livournais regardait avec étonnement cette effervescence, des marins turcs qui riaient à gorge déployée, des marchands génois qui gesticulaient furieusement, des Français qui négociaient avec des Africains sur des marchés improvisés. La taverne sur le quai empestait le vin rance, l'urine et la fumée de cigares. Les planches du sol étaient la collante, les murs noircis par la fumée. Des femmes aux seins nus servèrent des carafes de vin trouble à des hommes qui riaient en montrant leurs dents pourries. Dans un coin, deux marins jouaient aux dés en criant des jurons, tandis qu'une bagarre qui venait d'éclater avait laissé une tache de sang sur le sol. Jacques conduisit Carlo et Enrico dans une pièce isolée. La porte était gardée par deux hommes armés de couteaux. À l'intérieur, quatre contrebandiers étaient assis autour d'une table basse. Des visages durs, des cicatrices qui témoignaient de coups de couteau, des yeux qui ne connaissaient pas la pitié. Le chef, un homme avec une longue cicatrice qui lui traversait la joue jusqu'au menton, frappa du poing sur la table. « Jacques, nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Qui sont ces deux-là ? » Jacques sourit, mais la tension était palpable. « Des hommes qui veulent partir. Des hommes qui n'ont plus rien à perdre. » L'homme à la joue balafrée regarda Carlo avec mépris. « Celui-là ? Il a l'air d'un garçon qui ne résisterait pas à une nuit en mer. » Carlo sentit son sang bouillir. Enrico posa sa main de fer sur la table, faisant craquer le bois. « Ce garçon a déjà résisté à plus que tu ne peux l'imaginer. » L'homme balafré éclata de rire. « Ce ne sont que des paroles. Je veux des faits. » Carlo se leva d'un bond. Il prit le poignard d'un marin ivre, posé sur une chaise, et sans hésiter, s'entailla la paume de la main. Le sang coula, rouge vif. « Je ne crains ni la douleur, ni la mort. » « Emmenez-moi de l'autre côté de l'océan et je vous donnerai tout ce que j'ai, même mon sang. » Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis l'homme balafré acquiesça lentement. « Bien, vous partirez avec nous. Mais souvenez-vous, la mer n'a pas de pitié et nous non plus. » Carlo banda sa main ensanglantée avec un chiffon. Enrico le fixa avec une lueur de fierté dans les yeux. Le ciel au-dessus de l'Acadia était plombé et la neige, qui arrivait jusqu'au mollet, absorbait tous les sons. Autour du feu, les silhouettes des guerriers Micmac dansaient, les peaux de cerf tendues sur des tambours qui battaient comme un cœur fou. Une odeur âcre, mélange de fumée de bois humide et de chair brûlée, flottait dans l'air glacial, piquant les narines. Au centre, moi, prisonnier iroquois attaché à un poteau. Le froid était comme un couteau qui me transperçait les os. Je ne sentais plus mes jambes, seulement une pression terrible dans ma poitrine. Mon souffle était un jet de vapeur qui se perdait dans le ciel gris. Il n'y avait pas d'honneur dans cela, seulement une douleur qui n'avait pas de nom. Autour de moi, les guerriers Micmac dansaient, leurs cris formant un cœur de voix inhumaine. Leur tambour, qui m'avait hanté pendant des jours, résonnait comme le marteau d'un forgeron. Le vieil homme s'approcha, tel un fantôme peint. Son visage était un masque d'indifférence. Je le reconnaissais. C'était lui, celui qui avait tué mon frère. Il serra son couteau en os dans sa main et je fermai les yeux. Je ne voulais pas que ma dernière image de ce monde soit son visage. Je sentis le froid de la lame sur ma peau, puis une douleur aiguë. Je n'ai pas crié. Crier était un signe de faiblesse et je n'étais pas faible. J'étais un guerrier iroquois. Le vieil homme prit le morceau de chair, ma chair, et le leva haut dans les airs, dans un geste sacrilège. Puis il le jeta dans le feu, et l'odeur de ma propre chair brûlée se répandit dans l'air. La fumée pénétra dans mes narines, et je compris. Leur rituel visait à absorber ma force, à s'approprier mon âme. Ils allèrent me dévorer, et mon esprit ne serait jamais libre. Ce fut mon véritable et dernier désespoir. Je n'ai pas crié lorsque le jeune homme, tremblant, s'est approché, portant le morceau de chair à sa bouche. Je n'ai crié qu'en moi-même, un cri silencieux, qui s'est perdu dans le vacarme des tambours. Ce n'était pas à cause de la douleur, ni de la peur, mais à cause de la tristesse. J'étais en train de mourir, et mon âme était sur le point d'être brisée. Quand tout devint noir, je ne sentis plus que le froid, puis l'odeur de la fumée. Mon âme était désormais perdue. Arrivé à Québec. Le quai de Québec bourdonnait d'activité comme une ruche. La pluie fine n'avait pas découragé les gens. Elle semblait même multiplier leur attente. Des marchands qui avaient interrompu leur compte pour se pencher à la fenêtre de leur boutique, des femmes avec des paniers encore remplis de tissus ou de légumes, des enfants pieds nus qui couraient sur les planches détrempées du quai et des soldats qui, les épaules raides et les mousquets serrés contre la poitrine, veillaient à ce que la foule ne dégénère pas en bousculade. L'air était imprégné de l'odeur du poisson séché, du goudron coulant des cordages et de la fumée qui s'échappait des cuisines des villages voisins. Le fleuve Saint-Laurent, immense et sombre, bouillonnait contre les poteaux du quai, emportant avec lui des débris et des troncs arrachés aux forêts. Carlo s'arrêta non loin du quai, serrant fermement le manche du couteau de travail qu'il portait toujours à sa ceinture. Ses yeux clairs, mi-clos, suivaient l'horizon avec un mélange de crainte et d'espoir. À côté de lui, Enrico, le visage marqué par des rides prématurées et la dureté de la vie à la frontière, restait immobile, comme s'il voulait contenir l'agitation qui coulait dans ses veines. « Cette fois, ce sera différent », dit Carlo à voix basse, presque pour se convaincre lui-même avant de convaincre son frère. « Ce n'est pas seulement un navire de marchandises. Ce sont des gens que le roi envoie pour peupler la colonie, des maisons, des familles, un avenir. » Enrico ne répondit pas tout de suite. Ses yeux noirs, qui reflétaient l'eau de la rivière, se plissèrent en deux fentes. « Un avenir ?» répliqua-t-il finalement, avec un sourire amer. « Ou plus de bouches à nourrir ? Attends la première neige et tu verras combien supplieront de retourner à La Rochelle. » Un silence pesant s'installa entre eux. Les vagues se brisaient contre les poteaux, projetant de l'eau salée sur les planches, et la foule s'agita lorsque quelqu'un cria qu'une voile blanche apparaissait au-delà du coude de la rivière. Pendant ce temps, à Québec, la grande salle du conseil bouillonnait de voix et de disputes. Jean Talon, au centre, écoutait patiemment les discussions qui se chevauchaient. Un officier de la garnison prit la parole d'un ton sévère. « Les murs ne suffisent pas. Si les Iroquois décidèrent d'attaquer en force, Québec tomberait en quelques jours. Nous avons besoin de renforts, de canons, de poudre à canon. » Un marchand rétorqua. « Et qui paiera tout cela ? Nous avons déjà du mal à maintenir les échanges. Les fourrures n'arrivent pas en quantité suffisante et les prix en France s'effondrent. Sans profit, aucun navire ne reviendra nous approvisionner. » Le père Dumont, jésuite, éleva la voix. Vous oubliez l'essentiel. Ce ne sont pas les canons ni l'argent qui feront prospérer cette colonie, mais la foi. Sans la conversion des indigènes, nous serons toujours des étrangers dans une terre hostile. Ces paroles suscitèrent un murmure. Certains acquiescèrent, d'autres secouèrent la tête. Talon leva la main pour imposer le silence. Vous parlez de murs, de marchés, d'âmes. Je vous le dis, tout est nécessaire. Le roi veut une colonie stable, pas un campement de marchands ni une mission isolée. Une nation se construit avec des femmes qui enfanteront, des hommes qui cultiveront, des soldats qui défendront, des prêtres qui enseigneront et des marchands qui prospéreront. Chacun doit jouer son rôle. Le feu dans la cheminée crépita comme pour souligner ses paroles. Les regards se croisèrent et pendant un instant, il sembla que la volonté de Talon avait donné forme à une vision commune. Mais tous savaient que les difficultés restaient immenses. Le Saint-Laurent s'ouvrait devant le Saint-Jean-Baptiste comme un abîme de lumière. Après des jours de tempête et de brouillard, le soleil illuminait l'eau de reflets éblouissants. Les rives, parfois visibles, révélaient d'immenses forêts qui semblaient s'étendre à l'infini. Une odeur nouvelle, résineuse et fraîche, arrivait avec le vent, différente de celle, salée, de l'océan. C'était l'odeur de la terre promise. Des cris et des mouvements agités provenaient du fond de la cale. Claire Dupuis, incapable de se retenir, avait gravi les marches en courant, suivie par Madeleine et deux autres personnes. Amélie tenta de les arrêter, mais finit par céder. Elle savait qu'au fond, le désir de voir cette nouvelle terre était plus fort que la discipline. Lorsque les filles mirent le pied sur le pont, le spectacle les laissa sans voix. Certaines firent le signe de croix, d'autres s'agrippèrent au bastingage comme pour s'assurer que c'était bien réel. « Regardez !» s'écria Claire en montrant le rivage. « Des forêts à perte de vue, des lacs scintillants. Et là, vous voyez ? Une colonne de fumée. Ça doit être un village. » Marie Lefebvre, les yeux brillants, murmura « C'est magnifique, et pourtant, ça fait peur. » Amélie resta muette. Le vent soulevait son bonnet et ses yeux reflétèrent cette immensité. Elle n'avait jamais rien vu de tel et comprit que sa vie était désormais liée à cette terre, qu'elle le veuille ou non. Un canoë indigène arriva également sur le pont. Les deux hommes qui le guidaient levèrent leurs rames en signe de paix. Leurs visages étaient de peint d'ocre et de noir, et leurs colliers tintaient à chaque mouvement. L'interprète discuta longuement avec eux. Ils parlèrent des villages sur les rives, des rapides à éviter, des champs de maïs prêts à être récoltés. L'un d'eux tendit au capitaine une peau de castor en guise de cadeau de bienvenue. Charles et Henri observaient, fascinés. C'était la première fois qu'ils se trouvaient face à face avec les habitants de ces terres. Loin des rumeurs de tavernes et des craintes des marins, la réalité se révélait complexe. Ce n'étaient pas des ennemis abstraits, mais des hommes avec des mains, des yeux et des paroles. « Ils sont comme nous, » dit Henri doucement. « Différents, oui, mais des hommes. » Charles acquiesça, frappé par l'intensité de ses regards. C'était comme si ces indigènes lisaient en eux la fragilité et l'arrogance des nouveaux arrivants. À Québec, pendant ce temps, le port était en effervescence. La nouvelle de l'arrivée du navire s'était répandue, et des hommes, des femmes et des enfants s'étaient rassemblés sur le rivage. Quelques soldats maintenaient l'ordre, tandis que les marchands discutaient déjà de contrats et d'échanges futurs. Jean Talon, son manteau sur les épaules, observait depuis le quai. Il était entouré de notables, d'officiers et de missionnaires. Le père Dumont murmurait des prières, tandis qu'un jeune officier nommé Lamotte assurait que la garnison était prête à garantir la sécurité. « Ce n'est pas la sécurité dont nous avons besoin », répliqua Talon avec fermeté. « C'est de l'espoir. Ces femmes doivent débarquer en sachant qu'elles auront un avenir ici et non une prison. Si nous échouons, la colonie sera perdue. » Un marchand poussa un soupir. « Et les maris ? Les hommes sont impatients. Ils disent même que sans femmes, ils ne s'installeront pas ici. » Talon se retourna et le transperça du regard. « Qu'ils apprennent donc la patience. Je ne livrerai pas ces filles comme des marchandises. Elles seront choisies avec soin, car chaque union sera le germe d'une famille. Sans famille, il n'y a pas de nation. » Ces paroles furent accueillies par des murmures, mais personne n'osa répliquer. Pendant ce temps, sur le fleuve, le Saint-Jean-Baptiste avançait lentement, guidé par le canoë indigène. Sur le pont, les marins et les soldats se pressaient à la proue et les filles du roi se serrèrent les unes contre les autres. Certaines riaient nerveusement, d'autres pleuraient, d'autres encore restaient dans un silence absolu. La rive se rapprochait de plus en plus. Les maisons de Québec, peu nombreuses et clairsemées, apparaissaient comme des taches blanches dans la verdure. Au-dessus de toutes, le profil de l'église et des remparts donnait un sentiment de protection, mais aussi de défi.